T'as pu en avoir de tout. T'as clairement lâché la rampe, mais tu roules. Putain, ça fait du bien, quoi. Le dossier de Monsieur Rotin, ça fait longtemps que tu l'as oublié, hein. T'en as fait des copeaux pour les toilettes sèches. T'avais pas tort, Geoffrey, hein. Il s'appelait Geoffrey. Aujourd'hui, il s'appelle Sakitao. Il est maître Reiki dans une roulotte en Bretagne.
Sur Rire et Chanson.
Mais moi j'ai la solution pour que le couple ça fonctionne et que ça dure.
C'est tout simple. Il faut arrêter de penser que mentir c'est mal. Faut accepter le mensonge. Mais oui, on ne ment qu'aux gens qu'on aime. Moi je le pratique avec ma femme, ça marche très bien. Par exemple, ma femme, elle pourrait très bien rentrer le soir et me dire: chérie, hier soir je t'ai trompé avec mon prof de yoga. Ça me ferait mal. Pourquoi elle me dirait ça ? Elle-même ? Non ! Elle préfère me dire: chérie, hier soir, j'ai été boire un apéro avec Valérie, elle n'est pas bien, je vais remonter le moral. Alors que je sais très bien qu'hier soir, elle n'était pas avec Valérie, puisqu'hier, j'étais avec Valérie. Bah, je vais remonter le moral jusqu'à 5h du matin, hein ! Sauf que quand j'arrive à la maison, mais ma femme, je l'aime, alors évidemment, enfin, je vais lui raconter un petit... Alors, j'aime pas le mot, pas un petit mensonge, un tout petit, alors je maquille légèrement la vérité, je raconte ma petite histoire, je lui dis: chérie, hier soir, il m'est arrivé un gros pépin. Non, mais un truc horrible. J'ai été enlevé par les FARC. Les rebelles colombiens, oui. Non, pas en Colombie, hein, en plein Paris, quoi, en plein Pigalle. L'horreur n'a pas de frontières. Oui, ils m'ont drogué. Il était 18h, je buvais un mojito. Et à un moment, je me dis: tiens, mon mojito, il a un drôle de goût. On a dû me mettre un truc dans mon verre. Je veux vérifier, j'en prends un autre. Même goût. Là, je commence à analyser les choses. Je me suis dit: je vais en prendre un autre, mais sans la menthe. C'était pas dans la menthe. Non, le sucre non plus, non, j'avais vérifié. Mais alors, je me dis à un moment: mais bon sang, mais la drogue, ils ont dû badigeonner le verre, mec. Je veux vérifier, j'attrape le checker, je vois directement le checker, bingo. Même goût, c'est là que j'ai compris que j'étais complètement drogué. J'ai senti qu'on m'attaquait. À un moment, je suis tombé du tabouret, j'ai renversé la table. Tous les médecins te le diront. On ne peut pas tomber comme ça sans avoir été poussé. J'ai reconnu la signature des FARC. C'était pas mon premier enlèvement. Ils sont mis à m'attaquer, il y en avait partout des FARC. C'est très compliqué de les repérer parce qu'ils se mélangent à la population. Il y en avait un, il était déguisé en barman, un autre en client. Il y en avait un, collé à moi, quasi sur les genoux. Si tu sais pas que c'est un FARC, tu dis que c'est une pute. C'est vachement bien fait. Et à un moment, le pute FARC, il commence à me donner des ordres. Touche-moi le nichon, touche-moi le nichon. Et moi je lui disais: non, non, je suis marié. Mais avec la drogue, il dit oui, oui, qui sortait de ma bouche. À 1h du matin, j'avais les deux mains cramponnées au nichon du FARC. Et je pensais à ma famille, à ma femme. C'est ça qui m'a fait tenir. C'est juste après qu'ils ont franchi tous les paliers de l'horreur. Ils m'ont violé. Ils m'ont jeté dans une petite cellule sombre sur une paillasse avec un point d'eau et mon bourreau. Si tu sais pas que c'est une salle de torture, tu dis: il est à l'hôtel avec une pute. C'est vachement bien fait. Puis après, il m'est arrivé le coup classique qui arrive à beaucoup d'otages. J'ai pris fait et cause pour mon ravisseur. Le syndrome de Stockholm. Oui, oui, la Gaule, on peut dire ça aussi. J'ai entendu dire texto à mon bourreau: qu'est-ce que t'es bien gaulé pour un ravisseur. Je vais rester un peu. Et ben voilà, c'est ce que je lui ai raconté à ma femme en rentrant, hein. Et ben elle a très bien pris. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé à midi dans la baignoire, habillé en infirmière, il n'y avait plus rien, plus rien, plus personne, plus de femme, plus d'enfants, rien. Juste un petit mot sur le frigo. Chérie, hier soir, j'ai été enlevé par un Basque, le TA, qui réclame une rançon alimentaire pour élever les gosses.
Au programme, pour les fêtes, Star du Rire, de la bonne musique, nouvelle Star du Rire, blagues. Ah, qu'est-ce qu'on est bien! Bonne fête avec Rire et Chanson.
Star du rire.
Son sur Rire et Chanson.
Marinella.
Tout le monde se marie. Hein. J'ai une pote Cindy qui m'appelle l'année dernière. Elle me dit: Marine, surprise, il a fait sa demande, je vais me marier. Je suis: attends, Cindy, surprise, surprise. Je sais que ça fait 5 ans que tu lui mets la pression, quoi. Non, mais c'est vrai, son réveil, c'est la marche nuptiale. Derrière la porte des toilettes, t'as des mariés, le PQ, c'est de la dentelle. Et Cindy, elle fait une fête de fiançailles, d'accord? Il y a tous les potes, il y a tout le monde. Et au bout d'un moment, elle me demande de venir comme ça devant tout le monde et elle me donne un jeu à gratter, là, un genre de banco. Je gratte. Et là, il y a écrit quoi? Veux-tu être ma témoin de mariage? Bah non, pas haut, en fait. J'aurais préféré gagner 10 000 euros. Elle me dit: oui, mais c'est un honneur. Tu sais, d'être témoin, tu vas pouvoir m'aider à organiser mon mariage, t'occuper de mon enterrement de vie de jeune fille. Gna, gna, gna. Merci, Cindy, je suis ton amie. En fait, je suis pas ton employé. Parce que clairement, un témoin, c'est devenu une douille monumentale, ce truc. C'est-à-dire qu'en fait, tu deviens chef de projet événementiel bénévole. au nom de l'amour et de l'amitié. Et moi, je l'ai vu très vite parce que Cindy, elle crée un groupe WhatsApp, elle met toutes ses copines dedans, elle me met dedans, elle met juste un message. Elle dit « Coucou les filles, je crois que vous avez des choses à vous dire. » Et elle quitte le groupe. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, les copines de tes copines, c'est pas forcément tes copines. Ça peut être des grosses connasses. Et moi, je l'ai vu très rapidement parce que dans le groupe, elles se chauffent. Elles disent « Oui, t'inquiète, Marine, on a pensé à tout pour l'enterrement de vie de jeune fille. On a pensé à un week-end, 800 euros, tout compris. » J'ai pas tout compris. Le seul truc que j'ai kiffé, c'est l'activité que moi, j'avais prévue pendant l'enterrement de vie de jeune fille. C'est du lancer de haches. C'est fabuleux. Tu lances des haches comme ça, ça fait du bien. Apparemment, j'avais un don. Le mec de l'activité, il vient me voir à la fin. Il me dit « Franchement, vous faites ça bien au niveau du poignet. Par contre, faut arrêter de viser vos copines. Hein. » Elles m'ont tendu, les connes. Non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est quand même beaucoup d'investissement, le mariage des gens, pour un truc qui va pas durer. Voilà. C'est pas moi, c'est les statistiques. Et je me dis, c'est là qu'il y a un truc à faire. Témoin de rupture. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Je veux dire, c'est quand Cindy, elle va être au bout de sa vie, en plein divorce, d'accord, complètement nue, sous la douche, avec l'eau qui coule comme ça. C'est la buée. En train d'attendre la mort et de chanter Sheriff Aluna. En position fétale, il avait les mots. Mais c'est là que j'ai envie de débarquer chez elle en mode « Ok Cindy, surprise, je suis ta témoin de rupture, enterrement de vie de couple. » C'est là que je vais pouvoir la relever en mode « Ok Cindy, relève-toi, je sais de quoi t'as besoin, je suis ta témoin de rupture, t'as besoin de te faire ken, voilà Cindy. » Moi aussi Cindy, mais c'est pas le sujet. T'as besoin de te faire ken, Cindy, surprise, je t'emmène à Vegas. T'as besoin de te faire ken par un stripteaseur dégueulasse. Jason, un danseur de la Navy qui a un choc post-traumatique d'Irak. À chaque fois qu'il cogne, il est là « God bless America! I fuck Trump !» Ça serait là « Oh non, slowly, I'm not Trump, I'm Cindy !» Merci beaucoup. Oh yeah, rire et chanson. I don't
stars du rire.
Les stars du rire.
Vous les écoutez uniquement ici, sur Rire et Chanson.
Après Trappe et Barbès, j'ai décidé de faire un autre quartier. Saint-Germain-des-Prés. Le quartier des artistes. Boris Vian, Malraux, Nolwenn, tous, quoi. J'adore ce quartier, mais il est trop calme, franchement. Mais quand je vous dis qu'il est calme, il est d'une calamité, sa mère. On dirait mes voisins, ils sont décédés, mais tous les jours. La dernière fois, il était 2h du matin, trop de silence dans mon quartier, j'arrivais pas à dormir. Obligé d'aller voir mes voisins pour leur dire « C'est pas bientôt fini, silence !» Il y en a qui essaient de dormir ici, hein. Je travaille comme un moi. Heureusement que j'ai ma concierge qui est portugaise. Obligé de lui casser un carreau pour pouvoir dormir. Bah, va te foutre, caray. Et pour la première fois de toute ma vie, je me suis fait cambrioler. Tu rends compte? J'ai passé 20 ans à Trappe, c'est quand même le lieu de pèlerinage de tous les cambrioleurs. C'est le rendez-vous des intermittents des cambriolages. Jamais je me suis fait taper, au bout d'une semaine à Saint-Germain, c'était fait. Et pour la première fois de toute ma vie, j'ai dû appeler la police. Mais j'ai eu peur. Ils croiront jamais que c'est mon appartement, ils croiront jamais que j'habite à Saint-Germain-des-Prés. Je la vois d'ici, moi, la Seine. Là, au central. Bon, on est sur les lieux du crime, ouais. Apparemment, l'individu est toujours sur place, hein. Ouais. Central ? Ouais, c'est bizarre. Apparemment, l'individu a collé des photos de lui et de toute sa famille sur les murs. Hein. Ça doit être un serial killer ou un truc comme ça, hein. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est mon appartement, je paye le loyer grâce au film que je fais. Ah, au central ? Ouais, apparemment, l'individu, c'est drogue aussi, hein, parce que... Ils ne croiront pas, je le sais, c'est pour ça que j'ai pas de chance avec la police. Mais avec la police du monde entier. Je te jure, j'ai jamais de chance avec la police, je sais pas pourquoi. Cet été encore, je me suis fait contrôler par la police au Maroc. Parce qu'apparemment, j'aurais grillé un feu vert. Ils m'ont parqué sur le côté à la Robocop. Il y en a un, il voulait me faire sortir de force. Il a braqué une arme sur moi, il m'a dit « Les mains du l'air !»« Les mains du l'air !» Ouvrez la porte. Avec la bouche, je m'en fous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À plat ventre, dis-le, mon salopard. À plat ventre. Les pieds derrière la tête. Heureusement, au bout de quelques secondes, il m'avait reconnu. Mais c'est Jamel Bedouze! Si Jamel Bedouze! Alors là, quand je vais dire à ma fille que j'ai vu Jamel Bedouze, elle va être contente, je te jure. Couche et bouge pas. C'est pas parce que tu es Jamel Bedouze que la loi, elle va pas venir, hein. Ici, on est au Maroc, monsieur, c'est un pays civilisé, même s'il fait chaud. Hé, Mahmoud! Mahmoud, regarde, qu'est-ce qu'on a capturé? Jamel Bedouze, c'est loin! C'est loin qu'elle peut. Dites-moi pas que c'est la vérité. Il est là. Vas-y, fais-moi une blague. Une blague, n'importe quoi, vas-y. Mais là, c'est difficile, je suis quand même à plat ventre, là. Ouais. T'as compris. C'est bien, celle-là, elle est bien.
Rire et chanson.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people like
my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Les stars du rire,
elles sont seulement sur Rire et Chanson.
Ben, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui sont fous des affaires criminelles. Hein. Mais c'est vrai que c'est dingue. Hein. Ah ben moi, je les adore toutes. Je regarde ça sur le net, les reportages, les grandes affaires criminelles du siècle. Je veux dire, c'est fascinant. Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun. 1927 à 49. Marie Bénard. 12 morts dans la famille. Tout à l'arsenic. Elle a tout mis dans la soupe. Elle a dézingué l'arbre généalogique à la soupe. 12 morts à la soupe. Faut quand même... C'est fascinant. Quoi. Il y a un truc qui aurait dû leur mettre la puce à l'oreille au Bénard, c'est qu'elle prévoyait jamais de dessert. Tu fais pas de dessert, Tati? Non, t'inquiète, t'auras plus faim. Oh, la plus connue de nos affaires criminelles, évidemment, hein, vous n'allez pas y échapper. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Eh bien, ah, bah oui, non, mais... Le Nantais le plus connu de France après le petit Lu. Hein. XDDL, comme il se fait appeler sur TikTok. Ou Tuto Terrasse, comme il l'appelle chez le roi Merlin. L'égérie. L'affaire Daval aussi, évidemment, hein, Jonathan Daval qui a tué sa femme... parce qu'elle a eu le malheur de demander du cul après une raclette. Jonathan Laval, tu l'as pas la gueule, Jonathan Laval. Et si, Jonathan, le gars avec une gueule de Gwyn qui chouignait pendant les battues. Voilà. Oui, elle gratte un peu celle-ci, hein, elle gratte. Oui. Prenez un verre d'eau, moi aussi j'arrive pas à la mâcher entière. Elle est bizarre. Ah, moi je comprends Jonathan, hein. Une fois j'ai demandé du cul et. À une copine de Colmar après une choucroute, je me suis pris une tarte, c'était pas le moment. Ça rend insomniaque, alors tu sais pas si la poule et l'œuf, tu sais pas si tu regardes, tu dors pas, t'as envie de regarder. Eh, sans déconner, 2h du matin, t'arrives pas à dormir, tu te lances un bon fait entrer l'accusé. Puis après t'enchaînes après 2h de BFM, je peux te dire. 6h du mat, le soleil se lève, t'es pas guéré, hein, t'es là. Oh, de toute façon, ça va jamais en France. Eh, meurtre ou pas meurtre, que Covid ou pas Covid, pandémie, guerre. Le français est congénitalement incapable de dire quand il est heureux. Hein, en France, il faut dire que ça va pas. Voilà, c'est engrammé hein, en nous, comme disent les psys. T'arrives le matin au bureau en France, tu sifflotes, tu te fais alpaguer. Hein, t'arrives au bureau le matin. Qu'est-ce que tu fais, Thierry? Chef, il y a Thierry qui sifflote. Qu'il est heureux. Hein, faut pas faire ça, Thierry, tu vas déstabiliser l'équipe là-haut. Ah, Eh ben moi je pense que c'est Thierry qui a raison. Faut s'inoculer un peu de bonheur ou s'imaginer qu'on est. Je sais pas comment le dire, hein, mais je me mets le premier dans le sac. Hein, mais alors évidemment, en ce moment c'est particulier. Quand je parle de ça, tout le monde me tombe dessus. Mais Jérôme, enfin, quand tu me parlais de bonheur, on traverse une période dégueulasse, la guerre aux portes de l'Europe, la pandémie. Oui, il y a eu le Covid. Oui, d'accord. Oui, il y a eu des morts dans les EHPAD. Si tu veux. Oh écoute, ça aussi, hein. On va pas s'en faire un flanc, hein. Tu te souviens, pendant le confinement, en 2020, les gens sur les réseaux... On veut voir nos vieux. La dernière fois que t'as vu ta mamie dans un EHPAD, c'était pour le passage à l'euro. Arrête, t'es quand même... D'abord, on connaît pas le nombre de victimes exactes du Covid. Non, mais c'est vrai, hein. Quand tu regardes sur les chiffres officiels, sur Internet, ils mettent 10 à 20 millions de morts. Bon. On a vu plus précis, je veux dire... Ça fait une bonne fourchette à salade, quand même. 10 à 20 millions de morts, on sait pas. Les 10 derniers millions qu'on sait pas trop, c'est des morts chinois. Voilà. Ils affinent, on affine, on est là, on affine. Parce qu'eux, ils disent, on a eu 40 morts. Ils sont 1,5 milliard, on leur a dit, recomptez. Recomptez. Il y a un trou dans la caisse, il va être pour vous. Recomptez.
Rire et chansons. Rire et chansons. Once I was 7 years old, my Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. See my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon
go. Make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.
Rire et chanson,
la seule radio à vous diffuser toutes les plus grandes stars du rire.
Mesdames et messieurs, ça y est, tel que vous me voyez, j'ai enfin fait du sport extrême. Attention, j'ai pas fait du saut élastique ou du canyoning, tous ces trucs de danseuses là. Moi j'ai fait du vrai sport extrême. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le train pendant les vacances de Noël. En pleine période rouge. Bah ça, c'est du sport extrême. Oh. Alors, la première chose à faire quand t'arrives à la gare, c'est d'aller voir d'où part ton train sous le grand panneau d'affichage. Donc t'es obligé de traverser la gare qui est blindée. Hein. Et là, on était des centaines, la tête agglutinée en l'air comme des cons, à attendre qu'ils crachent le numéro du quai, tu vois. Et alors, vous regardez sous ce grand panneau d'affichage, il y a une espèce d'ambiance super bizarre. Tout le monde se mate de travers. Tu sais pas pourquoi, mais tu sens monter en toi la haine de ton prochain. Et à un moment donné, la voix s'affiche, clac. Et quand la voix s'affiche, les gens autour de toi, ils deviennent fous. Les mecs, ils se jettent dans les escalators comme des malades. Ils soulèvent les valoches, les gosses, les clébards, comme ça. Donc moi, j'ai pas l'habitude. Je me suis jeté dans l'escalator, mais trop tard. Je me suis fait griller par toute une famille. Heureusement, arrivé en haut, ils avaient oublié de composter les billets. L'enfer, obligé de redescendre tout. Donc bon, on arrive sur le quai comme ça. Le train était là, mais les portes étaient fermées. Alors on est tous là comme ça. Tu revois les mêmes gueules que t'as vues sous le panneau d'affichage, mais avec encore plus de haine dans le regard, comme ça. Et tout le monde s'affole. Pourquoi ils ouvrent pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? C'est ouvert? Ah bah non, c'est bon. Ils ouvrent pas les portes, qu'est-ce qui se passe? Et quand c'est bien tendu, que tout le monde est à deux doigts de s'égorger, t'as le mec de la SNCF qui dit dans son micro: attention, voie A. Le TGV numéro 6612 à destination de Chambéry. Départ prévu, voie A, partira voie Z. Bonne chance. Oh, on s'est tous regardés comme des débiles sans trop savoir ce qu'il fallait faire. Et quand tout le monde a bien compris le message, écoute-moi bien, c'est pas le départ du marathon de New York, là. C'est la conquête de l'Ouest, là. Ah bah heureusement qu'on n'avait pas de flingue, hein. T'as des mecs, ils n'auraient jamais atteint la voisine, hein, je te le garantis. Hein. On est parti comme Gengis Khan et sa horde de sauvages, en marchant bien sur la gueule de son prochain. Donc, on descendait dans l'escalier comme ça, et en descendant, on a croisé la famille qui a oublié de composter, ils remontaient, eux. Je lui dis au père, oh, c'est plus là, c'est la voisine. Et il s'est assis, il a craqué comme ça. Et elle dit, j'y arriverai pas, partez sans moi. On est arrivé voisin, comme le 15 de France. Là, on est sur le quai, le train était là, les portes étaient ouvertes. Oh malheur, on s'est jeté dedans comme si nos vies en dépendaient. Et là, dans le wagon, je me dis comme ça, oh, ça va, c'est bon, ça va se calmer. Mais non, la folie des hommes continue. Parce que là, t'as des mecs, écoute bien, qui essayent de ranger des bagages comme ça. Dans des endroits comme ça. Que même à la NASA, les mecs, ils savent pas faire, tu vois. Mais eux, dans le train, ils savent faire. Je les appelle les ingénieurs, les mecs, tu sais. Donc, j'enjambe les ingénieurs, hop. J'ouvre la porte du compartiment, ça, pshh. Et là, il y a une poussette énorme. Et elle est à personne, évidemment. Donc, tu peux pas rentrer, t'as la poussette qui bloque. T'as les ingénieurs derrière toi, tu peux pas reculer. Et t'as 200 personnes qui essayent de monter dans ton wagon. Là, c'est bloqué, hein. Tu peux rien faire, hein. Et là, le mec de la SNCF qui aime bien déconner avec son micro, il dit comme ça: attention, voie Z, le TGV numéro 6612 à destination de Chambéry va partir. Attention à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Là, sur le quai, c'est musique Grévin. Écoute-moi, quand tout le monde a bien compris ce que le mec il venait de dire. C'est pas le départ du marathon de New York, la conquête de l'Ouest, là. Là, c'est festival du merdier, là. Les mecs, ils perdent la raison. Ils jettent tout à l'intérieur du train comme des sacs de riz. T'as les plus malins que les autres qui essayent de monter par devant avec toute la famille. On va monter par devant! On va monter par devant! Eux, tu les revois jamais. Jamais. Bon, il y avait un mec à côté de moi, il faisait comme ça. Le train va partir, ma femme est sur le quai, le train va partir. Je dis, calmez-vous, monsieur. Je dis, c'est une bande son. Je dis, le train, il part pas avec des gens accrochés comme ça. Sauf qu'à ce moment-là, le mec, c'est plus un mec. Il est possédé par le diable. Il m'a giflé. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Et après, trop d'émotions pour lui, game over, dans les pommes, blam. Merde. Le temps qu'on appelle les pompiers qui viennent, avec le bordel dans la gare, 2h30 de retard. On est arrivé à Chambéry, c'était 5h du matin, j'aurais pu lui faire d'y aller en vélo, tu vois le truc. Sur le quai à Chambéry, à 5h du mat, il y a des mecs qui nous attendaient avec des papiers comme ça. Je lui dis, c'est quoi, monsieur? Il me dit, oh, on est désolé, c'est pour vous faire rembourser le voyage. Je dis, me faire rembourser le voyage? Je dis, mais vous plaisantez, non? J'ai avec les aventures que je viens vivre dans le train. Je dis, mais c'est moi qui vous dois de l'argent. Et j'ai qu'un seul mot à vous dire, vivement le retour!
Rire et chanson, les stars du rire.
Notre meilleur cadeau pour les fêtes.
Oh, it seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, it love is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, new century keeps bringing you down. Love supreme, love supreme. Come live a love supreme.
Les nouvelles stars du rire
sont sur Rire et Chanson. Kian Kojandi.
Donc maintenant je cours 2-3 fois par semaine et comme je vous disais, ça me fait vachement de bien. Et je pense que c'est grâce à l'endorphine que je sécrète pendant l'effort. C'est pas que grâce à ça je suis tout le temps heureux, hein. C'est que grâce à ça, j'arrive plus à être malheureux et vraiment je vous encourage à trouver une activité sportive, à bouger, faire un truc. Parce que personnellement, moi, ça a changé ma vie. Et j'ai une théorie là-dessus. Vous savez pourquoi on était heureux quand on était gamin? Parce qu'on courait tout le temps. On bougeait tout le temps. On était tout le temps sous endorphine. On était tout le temps défoncé quand on était gamin. Mais c'est vrai, quand on est gamin, on fait que des trucs de défoncé. Il y a quand t'es gamin que tu peux faire 8 heures de vélo pour aller nulle part. Bah, pourquoi tu fais du vélo? J'en ai un. J'y retourne plus. Quand t'es gamin, t'oublies un truc à l'étage, c'est pas grave, t'y vas en courant. Ah, tu redescends les marches sur le cul. Ah, je l'ai oublié, j'y retourne plus. Mais ouais, on était tout le temps défoncé. Et la preuve, c'est que tout ce qu'on fait quand on est gamin, c'est que des trucs de défoncé. Regarde, on mangeait du sucre et du chocolat tout le temps. Truc de défoncé. On regardait des dessins animés. Et on les comprenait. Truc de défoncé. On pouvait s'endormir partout et on dormait bien. Tes parents, ils faisaient une grosse soirée, 17 personnes dans le salon et toi, t'étais tranquille sous la table. Truc de défoncé. On était amis avec tout le monde. Truc d'alcoolique. On était impatient, on était là. Maman, 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 maman. Truc de défoncé. Maman, oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus. On n'avait aucune notion du temps, on était là. Ah si, je me rappelle, c'est quand les vacances. Mais je te l'ai dit, tête de linotte. Les vacances, c'est dans 3 dodos. Ouais, quand tu comptes la vie en dodos, c'est que t'es défoncé. Et enfin, on bougeait tellement que quand on avait soif, on avait vraiment soif. Tu sais, on avait la gorge sèche. On pouvait passer 2 minutes entières sous le robinet, ouvert à fond, comme ça. Hey, c'est quand la dernière fois que t'as fait ça quand t'étais adulte? Quand t'étais défoncé, mon pote?
Les stars du rire sont sur Rire et Chanson.
Et c'est comme ça tous les jours.
Pour me détendre, je possède une technique dont je veux absolument vous faire part ce soir. Une technique qui, pour moi, surpasse tout ce qui est yoga, sophrologie ou tous ces livres de développement personnel. Vous savez, c'est la mode en ce moment avec des titres «
Oh, comment ne plus souffrir du regard de l'autre ?»
Fais-toi pote avec des non-voyants, arrête de t'emmerder. Oh, écoute, allez, 24 boules d'économiser, mon vieux. Pour me détendre, je regarde cette série américaine mondialement connue et qui aborde des sujets sociétaux extrêmement modernes. J'ai nommé La petite maison dans la prairie. Je vous un culte à La petite maison dans la prairie. 2457 heures de niaise béatitude. 201 épisodes rediffusés chaque année dans le monde entier depuis 1987. 200 messes célébrées par le révérend Alden. Série la plus regardée de tous les temps devant Game of Thrones et Desperate Housewives, dont elle est un savoureux mélange. Quand le monde va mal, une solution, la petite maison dans la prairie. Pour moi, le monde se divise en deux catégories. D'un côté, ceux qui n'ont jamais regardé un épisode, et de l'autre côté, l'élite. Dont je fais partie, et qui connaît par cœur chaque épisode. Je suis incollable. Je peux vous dire de quel épisode il s'agit rien qu'aux toutes premières images. Je peux vous dire de quel épisode il s'agit rien qu'à la façon dont Carrie se ramasse la gueule sur la colline. Carrie, la petite troisième de la famille Ingalls. Alors, la famille Ingalls, on les aime, hein, on les aime globalement, on les aime individuellement, mais, et ça c'est très bizarre, pour rien au monde, on voudrait être l'un des membres de cette famille. No, no, no. Quoi ? Le père, Charles, t'as envie, toi, de te lever tous les matins à 4h du matin, tous les matins de ta vie pour aller couper du bois ? Traire les vaches, soigner les taureaux, ne jamais se tromper entre ces deux activités ? Caroline, il n'y aura pas beaucoup de lait aujourd'hui, oui. Hein, repeindre les clôtures, réparer le toit, tout ça c'est avant midi, manger un pauvre sandwich au pain, filer travailler au champ, rentrer à 18h30 pour bouffer un ragoût proprement dégueulasse. Et le dimanche matin, le seul jour où tu pourrais te reposer, penses-tu, il faut que tu te lèves encore plus tôt que les autres matins pour amener tout le monde à la messe et chanter avec le révérend Alden. Non merci, la mère Caroline, mariée à 14 ans, mère à 14 ans et 9 mois, se lever encore plus tôt que tout le monde pour préparer le petit-déj, torcher les mômes, les envoyer à l'école, débarrasser la table, faire la vaisselle, dépoussiérer le désert culturel dans lequel elle évolue. Parce qu'il n'y a rien à Walnut Grove. Il n'y a rien, il n'y a pas un théâtre, il n'y a pas une bibliothèque. Si, il y a une bibliothèque, elle est en bois, c'est Charles qui l'a fabriquée. Il n'y a qu'une étagère, il n'y a qu'un livre. La Bible ! Mais Caroline n'a pas le temps de la lire, elle doit faire la lessive directement à la rivière. Rentrer préparer le ragoût avant que tout le monde rentre à 18h30, prière, devoir conjugal, dodo et la messe le dimanche pour remercier le Seigneur de cette belle vie de merde. Non merci. Après il y a les gosses, leur première fille, Marie. Marie finit aveugle. Marie est aveugle en 1880. Aveugle en 1880, t'es non essentiel. Aveugle en 1880, on te pousse pas du haut de la falaise, mais on te dit pas qu'il y en a une. On te dit, dis donc, tu connais pas être tard. C'est vachement beau à cette saison. Tu feras gaffe, il y a une marche. Bon, quand même, elle se marie, Marie, elle a un môme qui finit en merguez dans l'incendie de l'école pour aveugles alors qu'il l'est pas. C'est quand même sacrément con d'être le seul à pas trouver la sortie quand t'es le seul à voir clair. Con, celui-là aussi. Leur deuxième fille, Laura, se marie à 16 ans. Ha ! La vieille fille ! Elle parvient à avoir une belle maison, bim, tornade, ça s'est fait, c'est rangé, c'est plié. Quant à la petite Carrie, elle a deux pieds gauches et je te raconte pas le bordel pour y trouver dégueulasse. Toute façon... Bon, allez-y. Toute façon... De toute façon, les mômes à l'époque, c'est pas la bamboche. À 7 ans, ils sont vieux. Ils sont déjà contents d'être arrivés à 7 ans. C'est pas le cas de 70% des mômes de l'époque. Merci les maladies infantiles. Ah, c'est pas la bamboche. L'école à pied, 18 km. Ton cartable, c'est un saut en inox. T'arrives en retard à l'école, tu te fais frapper. Tu connais pas tes leçons par cœur, tu te fais frapper. Tu dis à ta mère que t'as été frappé. Oh, suspense, tu te fais frapper. C'est bien, ça change. De toute façon, tes parents l'auraient su. L'institut, c'est ta tante, ils sont 12 dans le village. 12 dans le village, au niveau des mariages, tu fais comme Thomas Pesquet, t'essayes toutes les combinaisons. Peut-être là. Mais bon, au bout d'un moment, ça tourne en rond, hein. C'est un Rubik's Cube de consanguinité. Personne ne tombe des nues quand un môme naît avec les neurones en sorbet.
Hé hey !
Mon oncle, c'est ma tante. Bah oui. Au bout d'un moment, oui. Et dimanche, il fait beau, on ira être tard, c'est tout. Ah, écoute. Dieu, oui, là-bas. Ah. Pauvre gamin. L'école la semaine, l'école du dimanche le dimanche, les devoirs, les corvées, pas de smartphone pour mettre des photos de la prairie sur Insta, et la messe le dimanche pour finir en beauté. Non, merci.
Votre vote compte sur Rire et Chanson.
Rendez-vous sur rireetchanson.fr, donnez votre voix à votre star du rire préféré et rendez-vous du lundi au vendredi à 19h. Écoutez les stars du rire.
Alors, mon premier spectacle, comme je débutais dans le milieu artistique, j'avais un jeune producteur et il me fallait un tourneur. Alors, je vous explique rapidement. Un tourneur, c'est un mec qui nous trouve justement des dates pour jouer en province et un peu partout dans le monde. Et j'ai voulu faire travailler un mec avec qui j'ai grandi, tu sais, pour lui donner de la force et du travail. J'ai pris comme tourneur mon pote Abdelkrim. Et c'est lui qui a géré ma tournée. La première date qu'il nous a trouvée, c'était en Belgique. C'est un public extraordinaire. Mais ils ont pas de filtre dans leur tête. Tout ce qu'ils pensent, ils te le disent directement. Moi, j'avais fini mon spectacle, il y a un couple de vieux qui est venu me voir dans ma loge. Je dis bonjour monsieur Boudère, je sais que ma femme Martine, on aimerait bien faire des photos. Il n'y a pas de problème, entrez. Martine, t'as vu, il est gentil, hein. En plus, c'est sa tête, c'est pas un masque, hein. Après la Belgique, on a été joué à Roubaix. Je sais pas si vous connaissez Roubaix. Ah, c'est un public extraordinaire, mais ils ont des têtes à Roubaix. Comment je me sentais beau gosse, moi, à Roubaix. Je marchais dans les rues de Roubaix, c'était Georges Clooney. Les filles, quand elles me voyaient, elles se décomposaient. Bon, c'était pas très composé à la base, hein. En plus, en partant de Roubaix, j'ai remarqué un truc. J'ai remarqué qu'il y avait une centrale nucléaire pas loin. Et je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce que la centrale nucléaire, elle était là avant les habitants de Roubaix, c'est pour ça qu'il y en était nous? Ou alors, est-ce qu'il y avait d'abord les habitants de Roubaix, puis le gouvernement, il a dit, foutu pour foutu, on met ça là-bas. Après Roubaix, on a été jouer aux Antilles. Il y a des Antillais ce soir? Ouais, ben c'est bien, quand vous êtes à l'heure, faut crier, c'est pas grave, attends. Non, mais moi, j'ai ça. Alors, allez, va bouder, hein. J'étais, tu sais, j'avais été faire mon spectacle, c'était une petite salle, il y avait 30 personnes, tu sais, c'était aux Antilles. Je commence mon spectacle, première vanne, pas un rire. Deuxième vanne, pas un rire. Je suis pas marrant, quoi. J'ai dit quoi, allume la salle, elles dormaient tous, c'est pas ça. C'est 30 personnes qui cherchent un endroit où faire la sieste. J'ai dit, mais Abdel, c'est quoi cette tournée? Il m'a dit, t'inquiète pas, Boudère, on va se refaire avec le Maghreb. La première date qu'on a fait, c'était en Tunisie. Alors, ceux qui ne connaissent pas, la Tunisie, c'est un pays extraordinaire, mais c'est par étape. La première étape, ils t'accueillent avec cet accent un peu chantant, tu vois. Ça va, Boudère, bienvenue à Tunisie. La deuxième étape, ils t'emmènent manger, c'est très bon, mais très épicé. La troisième étape, c'est la chiasse. Pendant 15 jours, j'avais la diarrhée. Même mon corps, il m'a dit, arrête de chier, il n'y a plus rien là. On a été jouer en Algérie. Voilà. Ils sont obligés de crier, sinon on leur enlève le passeport. Tu vois, il se passe un... Merci, merci. Tu sais, il y a un truc... Si, Clément, les Algériens, tu connais, c'est ceux qui bloquent la route quand ils gagnent un match. Oui, il y a les gilets jaunes et les gilets verts. Non, mais attendez, moi, je connaissais pas l'Algérie et j'ai été, et franchement, pour moi, c'est le plus beau pays du monde. Après, c'est la production qui m'a dit de dire ça pour des raisons de sécurité. J'ai peur. Non, je connaissais pas l'Algérie. Enfin, si, je connaissais l'Algérie, mais que dans Envoyé spécial, tu vois. Et le mec qui a acheté mon spectacle, il m'a dit, t'inquiète pas, Boudère, le peuple algérien, il t'aime, il t'adore, ils sont gentils, ils sont adorables, ils sont accueillants. Et c'est vrai, ils sont gentils, ils sont adorables, ils sont accueillants partout, sauf dans les cafés et les restaurants. Ah, mais ça, il m'a prévenu. Il m'a dit, Boudère, fais attention, les serveurs, c'est des mecs hyper énervés, ils travaillent 30 heures par jour. C'est possible en Algérie, cherche pas. Il m'a dit, donc quand tu parles à un serveur, parle-lui gentiment, sinon ça peut dégénérer. Et ce matin-là, tu vois, j'étais prendre mon petit déjeuner sur Alger, et c'était à mon tour d'appeler le serveur, mais j'étais un peu, tu vois, « Votre Altesse !»« Oui, je pourrais avoir un café, un croissant, s'il vous plaît ?» Le mec, il me ramène café, croissant. Bon, je goûte le croissant, il était un peu bizarre, tu vois. Je dis « Excusez-moi, monsieur, votre croissant, il est un peu bizarre !» On dirait même un croissant d'hier. Il m'a dit « Alors ?» Je lui dis « Alors, je veux un croissant. »